Merci à vous d'être venus les uns les autres à cette table ronde. Dans le livret, vous êtes présentés, mais je reviens autour de nos collègues qui ont bien voulu participer à cette table ronde. Maria Vlahuvo, qui est à ma gauche, là, qui est chargée d'études socio-économiques, qui appartient à la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion à la Commission européenne. Thierry Lang, juste en face de vous, à sa gauche, qui est responsable de la mission, qui est président du groupe de travail sur les inégalités sociales de santé au Haut Conseil pour la santé publique, et également épidémiologiste à l'Université de Toulouse, l'Université Paul Sabatier. À sa gauche, Carole Pornet, médecin en santé publique et appartenant à la direction de la santé publique et en agence actuellement régionale de santé en région, en Normandie. Et Alain Fontaine, qui est là, tout à fait en face de vous, à gauche de cette brochette tout à fait respectable d'interlocuteurs, responsable de la mission stratégie et recherche au ministère des Affaires sociales et de la santé et travailleur infatigable de la politique des données en santé publique en France, bien connu de nos collègues français présents dans la salle. Alors, ma première question à chacun d'entre vous dans un premier tour, qui prolonge en fait la discussion que nous venons d'amorcer, c'est votre réaction, d'une part, à cette, vos premières réactions, et on aura le temps d'y revenir, donc souligner les points essentiels. Les uns les autres, comment vous réagissez à ces deux présentations, celle toute fraîche des résultats, dont je signale d'ailleurs que lorsque vous sortirez de la salle, vous trouverez le petit livret tout chaud édité des résultats de l'enquête ESS par nos amis qui viennent de la présenter. Donc en sortant, vous aurez la primeur de ces résultats qu'ils ont bien voulu présenter à Paris cette année. Et donc sur ces résultats de l'enquête ESS, sur la présentation, pas en miroir, mais pas loin, en convergence de chair, comment réagissez-vous? Quels sont vos... Alors vous avez déjà, Maria Vlahuvo, posé des questions, mais quel point souligneriez-vous sur ces deux enquêtes? Quelle réaction principale avez-vous, s'il vous plaît?
Thank you. I will speak in English. First of all, thank you for inviting me and thank you for the excellent presentations. I have to say that health inequalities is a fascinating topic because it's such a complex issue of direction of causation and what are the underlying mechanisms, and it's a multidisciplinary topic as we just saw. Also the fact that it's so connected to policy, so you find the reasoning behind health inequalities and you actually can connect it to policies, so there might be actually policy solutions for these inequalities. And also because it's not only individual, but it's also the macroeconomic context and the society as such. And also that is fundamentally an important topic, not only as a research topic, but for these people who have bad health, and maybe there the distinction between health inequality and inequity might be a useful distinction. So when it's just inequality in health between old and a young person, or whether there is a kind of a normative link that there is something unfair about this health inequality. I think from the Commission point of view, I would like to just say that we have looked into health inequalities. There has been communications and staff working documents on health inequalities, and it's maybe linked to the Europe 2020 target on poverty reduction and inclusive societies in general, and it's also used in the annual, well, the concept is introduced in the annual growth survey and the European semester, and when we give country-specific recommendations, health inequalities are there. So we also look at the access to healthcare services, not only the financial sustainability of these services, but also this quality, access to quality services. And there, all these kind of surveys that give us some information of all EU countries are fundamentally important. But there, sometimes I have to say that when it's self-reported health issues, or not even self-reported, but somehow I feel that you saw that asthma and these issues are prevalent in Nordic countries. Is it because they are just diagnosed better there? Is it a luxury to have asthma? And in Bulgaria and Romania, they don't have they cannot afford to care about these issues, because there was an interesting link. You saw that Nordic countries, they were all green, all red on those kind of asthma, back pain, and so on. But then better results in cancer, while for Eastern countries it was the opposite. So not much asthma, back pain, or whatever, but then quite high prevalence of cancer. So I was wondering about these connections and how the country affects. But I will stop here. I will have many other remarks, but I will stop here for now.
We can pursue après. Thierry Lang, s'il vous plaît, première réaction sur les résultats, parce qu'on a eu beaucoup de résultats de présenter, somme toute, même si par rapport à la richesse de l'enquête, on n'a fait que l'effleurer. Mais sur cette première présentation d'enquête, comment réagissez-vous ?
On attend avec impatience la publication du numéro spécial de l'European Journal of Public Health. D'après le petit fascicule, je crois que d'abord les résultats d'études européennes sont extrêmement importantes pour comparer la France, et les papiers qui avaient été publiés sur la place de la France en matière d'inégalité de mortalité dans les années 98 et 2008 étaient très très importantes pour prendre conscience du problème dans notre pays. On a un certain nombre de points qui se confirment, qu'on avait déjà noté en épidémiologie sociale, qui était finalement la grande diversité des contextes, et en particulier le fait que les comportements, les conditions de vie jouaient différemment selon les pays. Et en effet, des comparaisons entre la Grande-Bretagne et la France avaient semblé montrer cette faible influence des comportements dans notre pays. Dans Cher, j'ai retenu les travaux sur les patrimoines qui, en épidémiologie sociale, sont souvent peu documentés, et cette notion d'égalité des chances. Alors, ensuite, j'ai quelques remarques qui ont déjà été en partie abordées. D'une part, dans les déterminants de la santé, et c'est des questions aux investigateurs, vous avez nommé les déterminants sociaux de la santé, avec lesquels je suis parfaitement d'accord pour souligner leur importance. Je ne vois pas apparaître le système de soins, qui est quand même un déterminant qui doit être pris en compte et au moins discuté dans les papiers. Ma deuxième, et là je souligne l'intérêt d'étudier les médecines alternatives. Par exemple, j'ai vu que ça avait été noté, et sans doute il y a, vis-à-vis des inégalités sociales de santé, quelque chose d'important. Une remarque également qui concerne l'analyse, c'est-à-dire que effectivement les facteurs, les déterminants s'enchaînent les uns les autres. Les facteurs structurels sont à l'origine des comportements, et du coup une opposition un peu brutale fait sans doute perdre de l'importance aux actions sur les phénomènes structurels, qui est quand même très très important pour les décisions politiques. Alors, simplement pour être rapide, je me souviens que Margaret Whitehead, lorsqu'elle dirigeait le bureau OMS de l'Europe, avait fait deux types d'analyses, une qui était basée sur les facteurs proximaux et une autre qui était basée sur les facteurs fondamentaux, les causes des causes, avec des pistes politiques qui étaient très différentes. Donc je ne sais pas si c'est abordable dans votre enquête, mais ce serait sûrement très, très utile. Et puis le troisième point, parce qu'il faut être rapide, c'est la discussion sur le fait des pathologies. Alors, c'est une enquête déclarative. Et je crois qu'autant, il me semble, c'est un point de vue qui a été étayé tout de même, autant la santé perçue est un élément essentiel qu'on peut interpréter, autant je serais extrêmement prudent sur les pathologies déclaratives pour les mêmes raisons que vous avez dites. C'est-à-dire qu'il y a effectivement tout un processus qui va de la pathologie au diagnostic, passant par le dépistage, la mise en traitement et la déclaration, qui n'est pas du tout égal selon les catégories sociales et donc qui aboutit vraisemblablement à diminuer le gradient social. Donc, et il y a une question que je pose aussi qui est finalement lorsqu'on parle de conséquences pour les politiques publiques, est-ce qu'il faut mélanger les états de santé ? Vous avez bien dans l'enquête dit que c'était de la santé perçue, très clairement. Et puis ensuite, les recommandations. Y a-t-il un seul type de recommandation selon qu'on s'intéresse à la santé perçue et à la mortalité ? Je pense que les résultats qu'on observe, là, il y a beaucoup d'évidence et on ne peut pas y passer toute la soirée, mais montrent que ce n'est pas tout à fait certain. En particulier, ce qui avait été à l'origine d'un certain nombre de nos travaux pour comparer les différents indicateurs était le fait qu'au regard des inégalités sociales de santé, elles étaient très marquées en ce qui concerne la mortalité en France dans les travaux de 1998, alors que les inégalités de santé perçues étaient très modestes, voire inexistantes. Donc on a affaire, je crois, et quand on regarde aussi le comportement différentiel de la santé perçue et de la qualité de vie suivant les catégories sociales, on a des gradients qui se recoupent, qui sont même exactement inverses. Donc ma proposition est peut-être de réfléchir à des recommandations qui soient différentes suivant les types de santé auxquels on s'adresse. On n'a pas forcément les mêmes politiques. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci. Beaucoup de choses dans ces réactions. Je proposerai à nos amis de SS tout à l'heure, après un premier tour, de revenir sur ces questions dans le débat. Et donc, Carole Pornet, de l'angle où vous êtes aussi, vous avez déjà réagi sur des résultats, toujours sur ces résultats tels qu'ils ont été présentés. Quel trait saillant il vous paraît intéressant de souligner ou qui vous interroge ?
D'un point de vue politique de santé, c'est vrai que le fait de regrouper les déterminants sociaux de santé en trois groupes, comme ce qui a été fait dans l'ISS, les trois groupes qui ressortent, donc les comportements à risque, les conditions de vie, et puis, j'en oublie un, le travail, voilà, effectivement. Et où on voit la comparaison, enfin où on compare l'ensemble des pays. Et en ce qui concerne la France, on remarque que les conditions de vie et les conditions professionnelles ressortent comme facteurs déterminants, enfin majoritaires, comparés au comportement à risque. Donc là, pour le coup, c'est vrai que d'un point de vue politique, on peut ajuster en fait notre politique en interpellant les partenaires sur ces leviers, puisque par exemple l'ARS n'a pas de levier direct sur ces deux autres facteurs déterminants de santé. Donc il travaillait avec les autres institutions telles que la DRJ, SES, enfin la jeunesse et sport, etc., cohésion sociale. Le travail, etc. Enfin, ça, c'est un premier point qui me semble important. Donc, des résultats qui permettent d'ajuster la politique. Ensuite, oui, comme l'a souligné Thierry Lang, ce qui est important de souligner, c'est ce qui a été relevé dans l'enquête CHER, ce concept d'inégalité des chances, qui, pour le coup, est très prégnant en France. Contrairement, donc là encore, ça rejoint aussi les résultats de l'enquête CHER, contrairement aux inégalités comportement à risque, qui apparaissent plus faibles pour la France. Hein. Sinon, je rejoignais complètement ce que disait Thierry, c'est-à-dire avec des indicateurs de morbidité, mortalité, enfin de pathologie. Très différent quand on parle de subjectivité et d'objectivité. Ce que l'enquête CHER permet de compléter avec des mesures objectives, ça c'est intéressant. Ces mesures objectives, telles que les analyses sanguines, etc., pour des suivis longitudinaux. Donc voilà, donc il y a plusieurs pistes à explorer, mais en tout cas, d'un point de vue politique, de santé publique, ça me semble intéressant de, de suivre ces travaux, ces résultats. Voilà.
Merci. André Fontaine, sur le même questionnement des résultats que vous avez. Alors, vous avez déjà réagi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des points autres qui vous paraîtraient intéressants de souligner dans les résultats qui ont été mis en évidence dans ce module de cette année de l'enquête ESS et de cette présentation convergente de CHER?
Oui, alors, moi, je voudrais d'abord insister sur l'importance pour nous de ces travaux et des travaux qui les ont précédés depuis 20 ans ou plus, parce que ça a été dit à un moment donné, l'agenda politique est quelque chose qui se détermine en fonction de contraintes diverses, et une chose qui permet de faire évoluer l'agenda politique, c'est de mettre en évidence un certain nombre de faits. Il y a un homme politique célèbre du début du siècle dernier qui a avait l'habitude de dire que les faits étaient têtus, et donc c'est important d'avoir des faits, des analyses bien construites qu'on peut présenter, et ça nous a quand même permis au cours des 15 dernières années, moi que je suis ces choses-là, de faire inscrire sur l'agenda politique un certain nombre de choses. Le fait que la politique de santé doit visé à réduire les inégalités de santé. Ça a été inscrit dans une loi, c'est inscrit dans le Code de la santé publique. Alors, c'est un argument, ça, qui n'est pas très fort, j'imagine, pour des scientifiques. Dire c'est inscrit dans le Code de la santé publique, c'est pas une vérité scientifique. Mais il faut que vous compreniez bien que c'est ce qui donne la légitimité, ensuite, aux actions des acteurs publics. C'est une référence pour dire c'est légitime de s'y attaquer. D'autres choses qu'on a pu inscrire aussi dans le Code de la santé publique avec la dernière loi de santé, c'est l'importance de tous les déterminants environnementaux, de conditions de vie, de conditions de travail. C'est le fait que les actions qui visent à modifier les comportements en termes de promotion de la santé doivent aussi s'adresser aux conditions d'environnement qui influencent ces comportements. Et tout ça, on a été capable d'avancer ça parce qu'on a derrière des résultats comme ceux que vous avez présentés qui ont permis de convaincre les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, de l'intérêt et de la validité de ce genre de choses. Il reste encore du travail à faire. Une des choses qu'on a pu faire aussi au cours des dernières années, ça a été de mettre en place un comité interministériel pour la santé présidé par le Premier ministre, qui doit permettre, si les choses se passent comme on le souhaite, de coordonner l'action de l'ensemble des ministères vis-à-vis de l'ensemble des déterminants sociaux de la santé. On a dit qu'il y a l'habitat, il y a les transports, il y a l'éducation, toutes les choses qui échappent au ministère de la Santé. Pour convaincre les différents ministres impliqués, les types d'analyses que vous avez présentées, le type d'informations que vous avez présentées, va être une nourriture tout à fait importante. Ça, c'est vrai au niveau national, et je crois que ma voisine évoquait des choses du même genre au niveau régional et au niveau local. Alors, tout ceci dit, tous ces remerciements dits, je voudrais mettre quand même deux, pas bémols, mais deux points d'attention. La première, c'est, j'ai entendu dire tout à l'heure, c'est plus facile de se faire élire en augmentant le prix du tabac qu'en jouant sur les conditions d'habitat. Je ne suis pas sûr que les hommes et les femmes politiques qui ont essayé, dans certains cas réussi, à augmenter le prix du tabac soient forcément d'accord avec vous dans leur expérience. La réalité de l'agenda politique, vous avez bien noté, c'est un agenda à court terme, mais c'est que du coup la seule chose qui est, si on raisonne juste sur le court terme, la seule chose qui marche sur le court terme, c'est le soin. C'est l'accès aux technologies innovantes et c'est l'accès aux soins. C'est la seule chose qui est visible à très court terme. Dès que, et ça a pris un certain temps, et c'est pas toujours automatique, mais dès qu'un homme politique s'intéresse à la prévention, il ne fait pas forcément la chose qui est la plus facile. Que ce soit la prévention des comportements, la nutrition d'aujourd'hui, les conséquences sur la santé, on les voit dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Le tabac, c'est la même chose. Donc, c'est déjà, je veux dire, c'est déjà une démarche qui est pas forcément la plus facile. Et il faudrait pas fâcher les politiques en leur faisant des procès qui sont, je crois, pas tout à fait justes. L'autre point, c'est ça, moi j'ai mis du temps à comprendre. Première chose, c'est à partir du moment où on a compris que on pouvait éviter la survenue ou l'aggravation d'un certain nombre de problèmes de santé, on dit bah c'est là qu'il faut mettre les efforts. Et encore plus sur les causes des causes. La réalité, c'est qu'on ne peut pas dire à la place de. On ne peut pas dire au lieu de. La réalité, c'est qu'il y a une population aujourd'hui, et la réalité à laquelle les politiques sont forcément sensibles, c'est qu'il y a une population aujourd'hui qu'il faut continuer à soigner. Tous les cas qu'on n'a pas prévenus en faisant ce qu'il fallait il y a 30 ans, ils sont malades aujourd'hui, et si on ne les soigne pas aujourd'hui, il va falloir que ça soit assumé au niveau social. C'est que si on n'a pas capable d'agir sur les conditions de vie ou moins facilement, ou sur les conditions de logement ou moins facilement, ça peut quand même valoir la peine d'essayer d'agir sur les comportements en essayant, et là c'est aussi des difficultés, de trouver des stratégies qui s'adaptent aux différents environnements et aux différentes pressions. Est-ce que Marmotte, avec qui vous travaillez, appelle l'universalisme proportionné, je crois qu'on pourrait traduire en français. Hein. Mais ça, il faut quand même essayer de le faire tant qu'on n'est pas arrivé. Après, si on peut aller jusqu'aux causes des causes, et je crois que vous nous donnez des arguments pour nous aider à convaincre nos partenaires qu'il faut pouvoir aller jusqu'aux causes des causes, il faudra le faire en plus. Mais ça peut pas être, je crois, à la place d'eux. Et du coup, je pense que c'est les choses qu'il faut que vous ayez en tête quand vous présentez vos résultats, surtout si vous les présentez à des entre-chercheurs, on peut se dire que des choses facilement. Si vous les présentez à des gens qui ont des responsabilités, il faut que vous pensiez aussi à leur cadre de référence.
Merci Alain. Non, gardez, c'est bon, ça va être pour vous. Je propose à nos amis de SS, Terje André Aikemo et Rory Fitzgerald, de réagir, de répondre, façon de parler, mais de réagir au point soulevé sur l'enquête par nos collègues de la table ronde. Terje, si vous voulez commencer.
Where to start? I started to take notes after a while when I understood that many of the things you brought up actually were questions for me. So, many, many very insightful comments. Very insightful comments. And I think I agree with actually everything. Where to start? Start maybe with the root causes. It's interesting that, of course, you have to look at the population and the country and the time you're in. So 100 years ago from now, we had the non-communicable diseases. We had polio, we had all these things that we don't have today, for good reasons, for public health interventions. But actually, there were inequalities in those diseases then as well. So the root causes still played a role 100 years ago. Today, we also have inequalities, not in those diseases, but in lifestyle diseases. So we have inequalities today and before, but there are different diseases in play, but the same mechanisms. It's about people's resources, it's about knowledge, it's about status, it's about power, it's about networks, it's all the same mechanisms. But of course, we need to look at the context that we're in, and we need to be aware of where we are living and in which time. And I agree with everything, and I will take your suggestions into account as well. You mentioned something on technology, I think. Technology is very interesting because when new technology comes, who do you think will be the first one to access the new technology? Of course, the most resourceful people, those who know people who can tell you about someone who can provide this technology. It's the same mechanisms. Why do you think we have inequalities in specialist use and the other way in GP use? People who need healthcare services, they use the GP more, even adjusted for their needs. But when it comes to specialists, it turns around. Those with the least need gets the most use. It's the same mechanisms in play. It's the resources that people have. We have different kinds of education, different income, different occupation. But it's not about occupation and income and education as such. The problem occurs when people can use resources, fundamental resources, differently to obtain goods that they otherwise wouldn't have. So that was my views on a bit of that. So technology is good, but we have to make sure that it's equally accessed and equally used, and that everyone, that needs it can use it. Something on healthcare systems. That was a good comment. We have of course questions on healthcare use, but we have to realize again the context in which we're in. Which kind of health system do we live in? And luckily, in the articles that you will see now in print in a few weeks, we had actually treated or divided results into different types of healthcare systems, because that has really implications on the results and the interpretations of the results. So in some countries, you need to ask your GP to get to a specialist. In some countries, you can directly access a specialist. In some countries, it's your occupation that really gives you the advantage of finding a specialist. So that's just one example. But of course, the health system is important and is something we try to take into consideration while grouping the countries or interpreting the results. Of course, we cannot ask people in which health system do you live. We need to, of course, capture the individual utilization. Which reminds me on the alternative care, which I completely agree with. That's important. I don't think we can capture any effects of the alternative healthcare services, but it is a sign on the society we're in. It can tell something about the trust in the existing healthcare system. As you will see in the booklet, more people use healthcare alternative services than the regular services. And what that means is, I cannot say. And whether or not I believe in different kinds of, that's not relevant, but might be something to it, maybe. And of course, there are different types. You have acupuncture, you have spiritual healing, you have more conventional and less conventional types. It was something on self-rated health. Self-rated health is a subjective measure indeed. It's not mortality. It taps into different mechanisms and cannot be directly compared. That's I completely agree with. But what I would do is to see if there's a pattern. I would look at countries with different mortality levels, with different degrees of mortality for specific causes, for example, lung cancer. Then I would, if I would see something alarming in one country, and I would not be able to explain the results, then I could go to the service and see more about the mechanism. So what are the main determinants of smoking, or how can service add to the explanations of longitudinal studies? So I think there is something that both can be used, not for the same purpose, but to complement each other. I can continue.
It's okay. thank you, Terje. Thierry Lang, pouvez-vous revenir sur cette question de la définition de la santé que vous avez abordée tout à l'heure, évidemment rapidement, et je m'excuse de cette sollicitation de rapidité, qui évidemment n'est pas la moindre des questions. C'est le champ couvert. Je vous passe mon micro.
Juste pour développer un peu, c'était en fait la constatation que peut-être effectivement la santé il y avait un lien fort entre la perception de la santé et la morbidité objective. Donc c'était suite aux constatations européennes. Et en fait, on s'est posé la question de savoir si un même épisode de pathologie ou d'incapacité diminuer la santé perçue de la même façon selon les catégories sociales. Et en fait, on a travaillé sur des données américaines, NNS, et des données françaises, l'enquête décennale santé, et on s'est aperçu que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, et plus un état de santé affecte la santé perçue. Si bien que le résultat est que si on utilise la santé perçue, en réalité, on atténue le gradient, puisque pour une même pathologie donnée, finalement, la santé perçue va être peu impactée en bas de l'échelle sociale et en haut. Parce que la santé perçue, en fait, elle est liée aux attentes sur la santé. Donc plus on a d'attentes et on a des attentes plus fortes en haut de l'échelle sociale, elle est liée aux attentes. Et la santé perçue, c'est la comparaison par rapport à ses pairs. Et donc, on voit bien que se fixer sur la santé perçue, c'est quelque part risquer de sous-estimer les inégalités sociales de santé. Et je disais qu'on avait examiné la qualité de vie et que, curieusement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les personnes du haut de l'échelle sociale qui ont beaucoup de ressources culturelles, financières, sociales, etc., finalement, sont moins impactées par une atteinte à leur santé, puisqu'ils vont trouver tout un tas de moyens de compenser, par exemple, dans leur vie sociale, l'effet de la maladie. Donc je crois que c'était pour souligner qu'il faut faire extrêmement attention à tous les indicateurs qui ne mesurent pas la même chose et, pour certains, viennent distordre la perception des inégalités sociales.
Oui, très important. Merci. Maria Valino, vous vouliez réagir sur ce point?
Yes, very, very interesting what you are saying. And actually, I wanted to make the same point that ill health doesn't necessarily mean the same thing for all people. So, for example, its impact on your labor market status changes according to your educational background. So if I lose one of my hands, I can still probably work at the commission. But if I was working in a agricultural field, that would be the end of it. So I think this is an important point to make. But then connected to this, it would be also interesting. Actually, now I remember my third question that I had to Terje in the beginning was when you are going to repeat this survey, because in the end what we need is monitoring the trends, and what would be even better is to have panel data so you follow the same people. And then you could see also the impact of the welfare state. So how do welfare states buffer the impact of ill health? So this would be another interesting topic.
Merci. Thank you. À vous quatre, maintenant, on est déjà rentré dans ce champ, mais j'aimerais bien que vous ramassiez cette question qui est une question lourde. Vous disiez à Alain Fontaine tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut se dire entre chercheurs, mais il faut aussi qu'on pense à dire à l'extérieur, ce qu'on va dire et à la façon dont on parle non seulement à l'ensemble du dispositif qui permet à cette recherche d'exister, mais pour montrer à quoi elle peut servir aussi et à ce qu'elle soit compréhensive. Et je sais que c'est une des préoccupations, puisque nous en avons beaucoup échangé dans le consortium ESS, c'est aussi une des préoccupations de la très grande infrastructure de recherche Projet d'eau, comme de toutes les infrastructures de recherche, c'est-à-dire celle d'être utile en dehors de leur cercle, qui est celui de mieux comprendre pour enseigner, pour transmettre de la connaissance, d'être utile dans le concert de la société, donc être utile aux décisions. Utile aux décisions de l'action publique. Et donc c'est la question à laquelle je voudrais vous amener tous les quatre pour la ramasser. Vous avez déjà par touche toucher ce problème important, majeur. De ce qu'on a entendu cet après-midi, de ce que vous avez dit, comment ces données, comment ces analyses, avec toutes les nuances dont on voit qu'elles sont très importantes, tout le caractère relatif, contextuel, on pourrait longtemps y revenir, mais comment ces données, comment ces analyses peuvent-elles être utilisées pour l'action publique? Alain Fontaine, si vous voulez commencer, je vais passer un micro.
Alors, je vais être un peu caricatural, hein, en quelques mots. Le point qui me semble indiscutable et l'apport tout à fait important des analyses que vous avez faites, c'est de montrer l'importance des causes, l'importance des facteurs d'environnement, de conditions professionnelles, etc. Et donc de donner un argument de plus pour dire, si on veut, sur le fond et sur le long terme, améliorer la santé de la population et réduire les inégalités de santé, il faut travailler sur les causes des causes aussi. Ce qui est moins clair, et c'était un peu le sens de la question de méthode que je vous avais posée tout à l'heure, c'est, je crois qu'on va avoir besoin d'aller plus loin dans les analyses qu'on peut présenter sur qu'est-ce qui est effectivement un rôle propre, un rôle qui passe par un autre facteur, éventuellement des interactions. On sait qu'on est dans des systèmes complexes qui se construisent en plus sur la durée, hein, dans le temps, depuis la naissance, voire la génération d'avant, jusque voilà, et que du coup, pour convaincre nos amis du ministère du Travail qu'il faut améliorer un certain nombre de choses, il faut qu'on arrive à leur dire des choses un peu plus précises sur, ben voilà effectivement le rôle que vous jouez dans la chaîne, les rôles que les facteurs que vous... Voilà. Ce que je ne voudrais pas, mais là je vais être tout à fait caricatural, ce que je ne voudrais pas, c'est que ma ministre ou son ou sa successeur à terme retiennent comme message que c'est plus la peine de s'embêter avec le prix du tabac, c'est plus la peine de s'embêter avec la nutrition, puisque les vraies causes, elles sont ailleurs. Arrêtez de vous prendre dans le nez les lobbies des buralistes, de l'industrie agroalimentaire. Hein, c'est pas la peine de chercher. C'est, voilà. Ça, je voudrais. Ça serait dommage que le message qui ressorte de la présentation de vos résultats puisse être compris comme ça. On a eu un exemple là, qui était là en plus téléguidé, hein, qui est paru dans, je ne sais plus si c'était le Lancet ou l'England, qui a montré comment l'industrie du sucre avait, à une époque, financé une méta-analyse pour montrer qu'en fait, le sucre, ce n'était pas le plus important, hein, dans le poids. Donc, je ne dis pas que vous avez été financé par l'industrie des agroalimentaires ou le pluraliste ou autre, c'est pas du tout mon propos, mais voilà, il faudrait pas que ce message là qui serait contre-productif soit celui, alors que par ailleurs, hein, pour les autres points que j'ai dit, le travail que vous avez fait et ce qui vous reste à faire, hein, à vous et aux autres, sont vraiment nécessaires pour faire avancer le débat, parce que convaincre les autres ministères qu'ils jouent effectivement un rôle qui mérite qu'ils s'investissent au-delà des objectifs que eux-mêmes peuvent poursuivre, on a encore besoin d'avoir des données supplémentaires pour faire ça.
Merci. Carole Pornet, alors, vu d'une agence régionale de santé, donc il faut dire pour nos amis d'autres pays que c'est l'échelon d'intervention et de régulation, je le ramasse un peu, mais dit comme ça, du ministère de la Santé en région pour la France, tant pour essentiellement pour les structures d'ailleurs. Et donc, vu de cet angle-là, de ce que vous avez entendu, lu dans ce qui vous a été donné, quel aliment, quelle utilisation pour l'action publique ?
Là, effectivement, ça permet d'avoir des données qui nous manquent en région, enfin, qui permet d'alimenter les données probantes d'y appuyer. Et effectivement, pour qu'on arrive à vis-à-vis de nos collègues. Parce que c'est vrai que j'appartiens par exemple au pôle prévention promotion de la santé, la direction de la santé publique, mais il y a d'autres directions au sein des ARS, direction de l'offre de soins, direction de l'autonomie, qui ne sont pas forcément très au clair sur le concept de la santé globale et peuvent restreindre cette notion aux soins ou aux médecins, etc. Donc, ce qu'on doit réaliser, nous, en interne, c'est aussi acculturer nos collègues vis-à-vis du concept global de la santé, des déterminants sociaux de la santé, et de leur montrer que la santé donc, n'est pas restreinte au seul système de santé, encore moins de soins, et en apportant ces données bien précises. Comme l'a dit Monsieur Fontaine, avec des données si précises où l'on pourra dire, voilà, si on agit sur tel ou tel déterminant, ça contribuera à réduire de tel pourcentage, je ne sais pas, le taux de. Il faut être le plus précis possible pour convaincre non seulement nos collègues, mais aussi les partenaires extérieurs. Au domaine de la santé.
Merci. Thierry Lang, vous êtes au Conseil pour la santé publique. Donc, tirer des leçons de la production scientifique pour l'action publique, c'est quelque chose qui vous retient depuis longtemps et assez souvent. De ce que vous avez lu, entendu là, et des données que vous connaissez, que peut-on fortement souligner et utiliser comme utilité pour l'action publique?
Je crois qu'on a une responsabilité de produire des données, de la connaissance, et qu'aujourd'hui, il y a un défi que vous avez, qu'on a vu cet après-midi. C'est-à-dire que, d'une part, on a commencé à avancer. C'est-à-dire que les données produites sont ouvertes à l'ensemble des chercheurs. On a vu ça pour CHER, je pense que c'est le cas pour ESS. L'étape suivante, c'est que, surtout sur la question des inégalités sociales de santé qui touchent l'ensemble des déterminants de la santé, on a des bases de données réparties. C'est le cas en France, mais j'imagine que c'est le cas dans les autres pays. Et il faut arriver à produire de la connaissance à partir de l'ensemble de ces données. Donc il y a des obstacles juridiques, il y a des obstacles techniques. J'aurais souligné une difficulté à laquelle on réfléchit, parce qu'il y a une grosse littérature sur les big data qui consiste à mélanger tout avec tout. Je crois que là, je parle dans un milieu de SHS. Donc, ces bases de données, c'est des constructions sociales aussi. Donc, il y a vraiment un effort très particulier à faire de réflexion pour savoir, lorsqu'on utilise ces bases de données, d'où elles viennent, par qui elles ont été produites, évidemment, à quel moment, avec quel objectif et quelle était la pensée derrière, avant de mélanger tous les chiffres. En tout cas, il y a vraiment un énorme effort pour produire des données et les produire de façon correcte. Et puis le deuxième remarque, c'est, à vrai dire, la solution m'est venue en venant ici, donc merci pour cette invitation. Il se trouve que je travaille dans un laboratoire où on développe l'épidémiologie du cours de la vie, qui consiste à suivre des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et on travaille en particulier sur les cohortes que nos collègues britanniques ont bien voulu nous donner. C'est parfois plus facile d'avoir des données hors de France que chez nous. Enfin, on travaille en tout cas sur ces données. Et je trouve que, je répète auprès de mes collègues, que cette approche d'épidémiologie biographique est absolument essentielle, hein, qui attire l'attention sur la construction des inégalités sociales dans les toutes premières années de la vie. Mais il manque quelque chose, et il y a un grand risque, à mon avis, c'est d'avoir une approche individuelle. Par exemple, pour être très concret, en 1958, le fait d'avoir des parents divorcés n'avait pas la même signification qu'en 2016. Le taux de chômage n'était pas le même, l'organisation économique n'était pas la même. Or, là, on est en train de parler de facteurs macro-sociaux, sociétaux, qui sont ignorés par principe dans les travaux d'épidémiologie biographique, life course epidemiology. Et donc là, je me dis que les travaux qui sont menés, l'enquête ESS, c'est un formidable instrument pour contextualiser ces cohortes de naissance, comme la cohorte Millennium Cohort et autres cohortes. Donc d'avoir finalement, tout au cours de la vie, grâce à des enquêtes comme celle-ci, un contexte macro-social et sociétal pour l'inclure dans l'analyse de ce qui se passe. Sinon, on ne comprend rien, je pense.
Merci. C'est un fort argument, non seulement au niveau national, mais également plurinational dans le cadre européen. Mais alors, du coup, Maria Vlanovo, vu de la commission où vous travaillez, vu de la direction où vous êtes, quels enseignements pour l'action publique de travaux de ce genre?
Thank you. I think, first of all, in DG employment, unfortunately, health is not always taken on board in all the policies that we are thinking of. There is a separate DG for health, so there is a bit of a silo there for the health issues. But I think what is interesting in the survey is that you have also these questions on childhood conditions. We know, and in the DG employment, we are very much interested in investment in children and breaking the transmission of disadvantage from one generation to another. And there are interesting studies showing that if you are born in a poor family or disadvantaged family, the health impact of that can be very long lasting. Even if you become wealthy in your own adulthood, you can still kind of carry the ill health burden of that childhood with you. So I think having this opportunity for looking at these issues is very important. Then secondly, when you divide between behavior, occupational hazards, and living conditions, I think this is also very important for us because EU has some competencies on the occupational health and safety aspect. So having this specific component of health inequality there, it's very important for us. Then on Terje's solution of reducing income inequalities for reducing health inequalities, this goes to a bit to the the root causes of health inequalities issue. There are plenty of good reasons to reduce income inequalities, and it might actually also provide better financing for our healthcare system. But when I think of the root causes of health inequalities, I start thinking of like behavioral causes. So you drink alcohol and you smoke and so on. I was thinking of this very old famous marshmallow test from the US. I don't know if you're familiar with this psychological test where kids were put in a room and they had a bowl of marshmallows. And then they studied how much of marshmallows they were eating from the bowl. Their self-control of kind of not eating the marshmallows. It was connected to their later kind of life, success in life in the labor market and so on. So I was wondering, to the same extent, this is a bit of provocation, are there other things that impact both your low income and low educational level and your bad health, for example, your self-control, discipline and so on? So how to impact on those if you then find out that behavior is important or not. Well, there is another interesting research, a book called Scarcity, which shows that poor people very often, they don't have any more the energy, the capacity to think of eating broccoli or whatever. Their whole concentration and energy goes to surviving in life. So they're probably better redistribution towards the poor makes sense to help them in the daily life so that they can then have energy to concentrate on healthy behavior. And from the EU perspective, I think it's important to also to kind of somehow better approach people at the Commission so that we actually receive these messages. For example, on the occupational factors, I think a lot of people in my DG would be very interested in that, but they wouldn't know how to find this data and information. Thank you.
Thank you. Un temps assez rapide, mais un temps quand même pour des questions ou interventions pour vous. Qui veut se lancer? Jacques, je t'en prie.
Merci. Je voudrais faire quelques commentaires fugaces sur ce que je viens d'entendre, qui est absolument passionnant, et les faire du point de vue de la frontière, qui est au fond l'objet de cette réunion entre la recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales et puis la décision publique. Juste deux remarques que je vais faire à dessein dissensuel. C'est plus clair d'être... sur le plan, disons, épistémologique, un peu sceptique sur la compatibilité entre les deux idées suivantes qui ont été émises dans votre table ronde. La première idée, c'est l'idée léniniste, les faits sont têtus. La deuxième idée, c'est les faits sont construits. Et à mon avis, les deux choses ne sont pas forcément dans la même ligne. Je ne suis pas certain que le constructivisme, qui est l'atmosphère intellectuelle dominante, disons en France, soit... Enfin, je ne vais pas m'entrer, vous voyez le genre de perplexité que j'ai. La seconde est plus intéressante pour la question que je viens de mentionner, est une distinction que vous avez les uns et les autres tracée avec beaucoup d'insistance et qui me paraît très pertinente entre les causes proximales et les causes lointaines, les causes des causes. Je suis frappé de voir à quel point cette distinction intervient aussi dans un domaine de recherche applicative qui est proche, finalement, de celui dont on parle, c'est-à-dire la question de la recherche relative à la radicalisation. Nous avons, clairement, s'agissant de la recherche sur la radicalisation, une immense majorité de gens, chercheurs SHS, qui nous disent ce qui importe, ce sont les causes profondes, les causes des causes. Vous voyez, il suffit d'ouvrir la télévision. Et d'autres, notamment en provenance des gens qui ont à agir au plan politique, qui nous disent, entre les controverses, des gens qui pensent que les causes profondes sont A, et les gens qui font que les causes profondes sont B, ces controverses-là seront finalement arbitrées par l'histoire lointaine. Mais nous, nous disent les gens qui sont en charge de l'action publique, nous avons besoin de préconisations, je dirais, implémentables. J'en viens au point qui concerne les inégalités de santé. Premièrement, êtes-vous si sûr que la distinction entre les causes behaviorales, causes proximales, le comportement, et les causes sociales soient aussi étanches que ça? Est-ce que vraiment s'agit-il de paramètres qui sont indépendants? Et surtout, deuxièmement, comme le disait Alain Fontaine au reste, il serait peut-être un peu risqué que les conclusions que le politique tire des enquêtes qui nous ont été présentées soient qu'il faut se concentrer sur les causes des causes et peut-être laisser filer les causes proximales. Mon dernier mot là-dessus, c'est une autre question que je pose aux responsables de l'enquête ESS et CHER. Ne croyez-vous pas que dans le domaine des causes proximales, c'est-à-dire des causes comportementales, le tabagisme, l'alcoolisme, etc., la façon même dont sont conduites ces enquêtes, c'est-à-dire par entretien, face à face, ne se prête pas justement à une modification sur ces causes comportementales? Lorsque nous sommes face à face, nous parlons évidemment des grandes causes sociales, etc., etc., mais les entretiens montrent et les questions posées qu'il est aussi question des comportements individuels de chacun et de leur ressort intime, dirais-je. Voilà un peu les questions qui me venaient en vous écoutant.
Merci, Jacques. Pas des questions complètement légères. Qui veut s'essayer à en prendre une ou deux? Carole Bornet.
Oui, pour répondre donc, au fait de prendre en compte les causes proximales ou les causes distales, non, c'est simple, on va pas balayer d'un revers les causes proximales, mais il faut prendre en compte l'ensemble de ces facteurs, voilà, pour avoir une approche globale de la santé, et c'est ce qu'on essaye de faire en interne et avec les partenaires aussi pour leur démontrer qu'eux aussi peuvent, même s'ils ne le savent pas, agir sur la santé.
Thierry Lang.
Oui, rapidement, je choisis de répondre aussi sur ce thème-là. Il n'est pas question de balayer les causes proximales. Il y a des cas où effectivement les causes structurelles vont devoir être prises isolément. Mais même si vous prenez les causes proximales, l'efficacité consiste à regarder les causes des causes. C'est-à-dire que la politique anti-tabac, en particulier sur les inégalités sociales de santé, dans notre pays, est un remarquable échec. C'est-à-dire qu'on a une stratification sociale magnifique. Ça veut dire qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Et si on regarde un petit peu ce qui est derrière un comportement, ça commence par l'estime de soi, le contrôle sur sa vie, capacité de maîtriser ces changements de comportement. Ça c'est les premières années de la vie, hein, c'est l'école. Ensuite, il y a la réglementation, il y a les bénéfices perçus. Donc, c'est ce raisonnement sur les causes s'applique aussi aux facteurs proximaux, sachant qu'on a démontré l'inefficacité d'une prise en charge uniquement basée sur l'augmentation des connaissances et la prise en charge thérapeutique.
Merci. Si vous voulez passer à Alain Hourtin.
Ouais, pour quand même essayer d'aller un peu plus loin dans ce raisonnement, on sait que toutes les actions de prévention qu'on peut essayer de mener, si on les construit naïvement, on a maintenant la démonstration que ça profite, comme ce que vous disiez tout à l'heure de la technologie, ça profite à ceux qui en ont potentiellement le moins besoin, hein, et qu'il y a des inégalités d'accès. Et du coup, si on dit la façon dont les gens réagissent ou acceptent l'invitation qui leur est faite dépend d'autres facteurs, ça peut permettre, et ça devrait nous permettre, de construire aussi les stratégies qui vont permettre d'atteindre différemment différents groupes. Et on a en tout cas sûrement besoin de comprendre ça. Savoir que le comportement de quelqu'un de 18 ans est en partie déterminé par ce qui s'est passé quand il avait 3 ans, ça ne va pas permettre de remonter dans le temps et d'agir sur qui il était 15 ans avant. Par contre, ça va permettre pour ceux qui ont 3 ans maintenant peut-être d'essayer de corriger les choses, mais pour ceux qui ont 18 ans maintenant, si on arrive à comprendre à quoi c'est lié, leurs comportements sont liés, d'essayer d'agir de façon à compenser ou essayer de compenser ces effets-là. Donc, ce raisonnement à multiniveau, il est tout à fait important, je crois, mais par contre, il faut être capable d'arriver à construire à partir d'hypothèses, à partir d'analyses, des modèles explicatifs qui tiennent. Sinon, si on s'attaque juste effectivement aux symptômes, aux comportements, sans comprendre à quoi ils sont dus, peut-être que ça peut marcher. Mais dans un certain nombre de cas, ça ne marchera probablement pas, parce que l'action qu'on sera capable de construire ne permettra pas de répondre à tous les déterminants. Voilà, ça c'est la théorie, hein, dans la pratique, les gens qui sont sur le terrain, moi je suis dans un ministère, je suis assez loin du terrain, je suis assez protégé de la réalité, hein, mais dans la pratique, les gens savent bien que sur le terrain, on essaye d'adapter les choses, les leviers d'action qu'on a à des situations diverses, et où plus les gens sont près du terrain, et plus ils essayent de faire ça. Mais par contre, si on peut les outiller, leur donner des outils, des clés de compréhension qui les aident à faire ça, à ce moment-là, on a des chances de faire plus de progrès. Et si, au niveau central, on peut reconnaître le fait qu'il faut être capable d'adapter de différentes manières à différents groupes en fonction de différentes caractéristiques, ça sera mieux que si on dit « faites pour tout le monde pareil » et c'est comme ça qu'il faut faire.
Merci. Je suis sûr qu'il y aurait d'autres développements, mais l'heure tourne et nous sommes engagés sur un horaire. Et je ne voudrais pas aller au-delà. Je n'ai pas ni la prétention ni l'illusion de porter des conclusions fortes à cette demi-journée extrêmement riche. Je voudrais juste souligner 2-3 points. Un premier qui était dès le début dans les présentations, qui a été sans arrêt un fil conducteur, je crois, des discussions et qui vient de se ramasser dans les interventions de façon assez dense dans les toutes dernières interventions, c'est le couplage très fort, ce qui n'est pas très étonnant, tout au moins je l'espère, dans les sciences humaines et sociales, mais qui est parfois oublié, Jacques le disait dans son introduction, par des pans entiers des communautés qui tombent de l'autre côté d'un cheval, oubliant qu'il faut les deux pour tenir en selle, c'est-à-dire ce couplage extrêmement fort entre l'extrême intérêt que l'on trouve, même quand on est hors du sujet, alors a fortiori quand on est pleinement dans le sujet, l'extrême intérêt que l'on trouve à mieux connaître. Il n'y a pas d'autre façon de mieux connaître une réalité d'une société, une réalité globale, que de rentrer dans ces détails et de la mesurer, non pas au millimètre, c'est une autre affaire, mais de rentrer dans le cœur, le ventre, les reins, excusez l'image pour les questions de santé, mais de cette société, et donc de prendre non seulement la température, mais la mesure, avec ces travaux extrêmement pesés, où pendant plus d'un an, on s'interroge sur comment on va construire correctement la question pour qu'il n'y ait pas de biais, comment on va construire l'échantillon, etc. Et puis d'un autre côté, on le voit dans toutes les discussions, l'extrême importance à la fois de l'interaction entre différents phénomènes et donc de la compréhension de ces interactions. De se garder de l'illusion qu'un seul phénomène permet d'expliquer la totalité de la mauvaise santé, ou pire, que une raison de premier rang permet de tout expliquer, alors qu'en fait il y en a d'autres derrière, sans même parler des biais statistiques, l'ecological fallacy, cher à la formulation anglo-saxonne de nos amis. On a, au-delà du risque statistique, puisque là, aux questions qui interrogeaient sur le fait de savoir si on descendait en dessous des échelles nationales, ce qui était un sujet en soi, déjà au niveau national et entre les différents États-nations interrogés dans le contexte de ces 17 pays interrogés, on voit des différences de trajectoire qui sont très spectaculaires et qui à la fois peuvent être le résultat d'une réalité et de biais. Je pense à la question de l'existence et de la capacité de percussion sur la santé des gens d'un système de santé qui permet de prendre aussi bien dans tous les pays la réalité d'une pathologie. Je pense à la question du cancer. Il n'est pas du tout évident que la faible mesure dans un certain nombre de pays soit le résultat d'un faible taux, mais qui peut être aussi le résultat d'un faible taux de diagnostic et d'un faible taux de soins, du coup. Donc, quand on commence à dévider cet écheveau, on voit bien que le résultat d'un fait doit être lié à d'autres et doit revenir à une analyse plus globale, comme le disait Alain Fontaine tout à l'heure, ou pour revenir à la question de Jacques, qu'il n'y a pas forcément de cloison étanche, mais au contraire, un fil cohérent et rationnel, et ça, c'est l'activité scientifique, l'activité scientifique de la construire, un fil cohérent et rationnel entre des causes de premier rang et des causes, ou un enchaînement en fait de phénomènes qui sont derrière. Cela sur le plan scientifique. Et pour ce faire, il me semble, une fois encore, mais c'est utile de le montrer dans cette enceinte, la nécessité absolue pour construire une connaissance étayée de la société et donc des sciences humaines et sociales, disons modernes, c'est-à-dire s'appuyant sur toutes leurs capacités de faire, nécessite absolument non seulement ces grandes enquêtes, mais la construction de ces infrastructures de recherche que nous contribuons tous à construire au niveau national comme au niveau européen, non seulement pour bâtir le très gros effort que nos amis de SS ou de CHER mènent, mais également pour le conserver, pour le mettre à disposition, le mettre beaucoup à disposition, et pas pour un cercle restreint, à disposition de cercles de recherche, Florent Jussot y insistait dans son intervention, à disposition de ceux qu'ils vont apprendre. C'est un vaste sujet dans les universités, de façon à ce que ça ne soit pas l'apanage de scientifiques éclairés, mais trop peu nombreux, et puis à disposition, et c'est la fin de la discussion, de ceux qui sont en charge de l'action publique, de telle façon que le meilleur de la connaissance produite puisse servir à aiguiser et à cibler l'action publique, quel qu'en soit le niveau, celui de la région ou celui de l'ensemble européen, ce qui n'est pas la moindre des tâches quand les disparités des réalités sont déjà si importantes au niveau de chaque région de nos différents pays d'Europe et qu'a fortiori entre les différents pays d'Europe, elle est extrêmement importante. Ça me paraît au moins trois faits saillants qui sont à la fois de l'ordre de la connaissance et de l'ordre de la construction des outils pour la connaissance elle-même telle que l'organisation de la recherche peut les produire, qui me paraissent ressortir de nos discussions d'aujourd'hui. Il me reste à vous remercier, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde, à remercier nos amis de SS d'être venus tous pour leur assemblée générale, et donc merci à eux, et on se retrouvera demain, mais Rory et nos amis de l'équipe du module de cette année pour avoir produit cette analyse, Florent Jussot d'avoir bien voulu présenter des éléments de chair pour entrer dans cette cohérence, et merci à vous d'y avoir participé. Et pour finir, un cocktail est servi. Je pense qu'on va nous indiquer juste en sortant. Je ne sais pas exactement où, mais c'est, on va le voir tout de suite. Donc vous êtes cordialement invités à prolonger cette discussion autour d'un verre. Et n'oubliez pas, le petit livret, en sortant, vous le trouverez sur la table. Juste en sortant à droite, c'est un petit livret demi-format, écrit en blanc sur un fond rouge. Voilà. Et vous avez aussi des lettres d'information de la TGIR Projet d'eau. Et puis, si vous pouvez reprendre vos casques et les remettre dans les boîtes là où vous les avez pris pour ceux qui en ont emprunté, merci à vous et bonne soirée.